Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Et là, je vais accueillir avec moi deux autres personnes de Jacques Ouellette. Comme j'ai dit juste avant que ça allait être une émission vraiment dédiée à l'école spécialisée Jacques Ouellette pour les jeunes en situation de handicap visuel. Donc là, je reçois la directrice de l'école, Geneviève Blondin. Bonjour.
Bonjour.
Et je reçois Sarah Lucier, qui est psychoéducatrice à Jacques Ouellette.
Bonjour.
Bonjour. Et là, je trouve ça super intéressant parce que juste avant, dans mon autre segment, ben, j'avais deux professeurs, un en informatique, un en éducation physique. Et ben là, moi, je trouvais ça super intéressant aussi d'entendre le côté santé mentale des jeunes. Donc, de là, pourquoi, Sarah Lucie, je trouvais ça super important que tu sois présente. Et je me suis dit, ben la directrice aussi, là, parce que c'est quand même là, tout à coordonner cette école-là. Donc, je voulais avoir un peu le capitaine du bateau aussi. Mais ce que, en faisant mes petites recherches, j'ai vu aussi que ben il y a eu tout l'enseignement avant ça. Là. Donc, avant même d'être directrice à Jacques Ouellette spécifiquement, ben il y avait eu de l'enseignement à Jacques Ouellette auparavant.
Oui, c'est vraiment l'école où j'ai commencé ma carrière de prof. Là.
C'était, ouais.
Oui, j'ai même fait deux stages pendant que
directement.
J'étais aux études.
Ouais. OK.
Pendant mon bac en orthopédagogie. Là,
ouais.
Je suis orthopédagogue
ben,
de formation.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est ça. J'ai fait mon bac à l'Université de Montréal. On avait les deux derniers stages que j'avais à faire, c'était, je les ai faits à Jacques Ouellette. Un au service externe, puis un à l'interne dans l'école.
OK. Puis là, justement, ma question, parce que j'aime ça, tu sais, voir un petit peu le chemin, le parcours qui fait que tout d'un coup, on est avec des personnes en situation de handicap visuel, alors qu'au départ, nous-mêmes, on n'en a pas, là.
Mm-hmm.
Donc, mais là, ce que je comprends, c'est que même déjà à l'université, le chemin s'est dirigé volontairement, là, avec des jeunes avec un handicap visuel.
Ben,
donc, qu'est-ce qui a amené.
C'est même
là.
Avant l'université.
Avant.
Parce que, oui, c'est ça. Moi, en 1995,
oui.
J'ai commencé à travailler à la Fondation des aveugles du Québec.
Ah!
Comme bénévole.
OK.
En fait. C'était presque. C'était tout petit, là, la Fondation.
Oui.
Ça s'appelait même pas comme ça. Ça s'appelait Sports et loisirs passe-partout.
Oh mon Dieu, OK.
Oui, c'est l'ancêtre du service des loisirs de la Fondation. Donc, j'ai travaillé au début, j'étais bénévole en ski. Tu sais, je faisais du ski alpin avec les élèves.
OK.
Et il y avait très peu de jeunes qui participaient. Là. Il y avait, je pense, comme 4-5 jeunes. Là, qui,
OK.
Tous des ados, tout ça. Puis là, on a comme. Monter ce service des loisirs là, en allant chercher la clientèle des enfants 6-12 ans, puis aussi en recrutant des bénévoles, en recrutant des moniteurs. On a fait un camp d'été, tout ça. Donc, j'ai vraiment eu la piqûre pour cette clientèle-là.
OK. Mais à ce moment-là, justement, qu'est-ce qui fait qu'on fait du bénévolat à la Fondation des aveugles déjà et non... un autre organisme.
Oui, c'est ça. Bien, ça a commencé que j'ai rencontré dans un kiosque, tu sais, dans un centre d'achat, je pense, là, une table avec Mira.
Oui,
c'était Mira
il y
qui
avait
était là.
Ça beaucoup avant,
ouais,
hein, c'est
ça.
Vrai. Oui, je me rappelle.
Puis là, en discutant avec eux, celui qui était à la table, il m'a dit, c'était M. Jean Perron, je me souviens de son nom.
Oui, M. Jean Perron.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, il m'a dit, il existe un organisme qui font des loisirs avec des jeunes. Il dit, t'aimerais travailler avec les jeunes. J'avais probablement dit ça au passage.
Oui, c'est ça, dans la discussion.
Là, j'ai communiqué avec cet organisme-là qui était Sports et loisirs passe-partout. J'ai commencé à faire du bénévolat. Et c'est ce qu'il y a... Ah, moi, j'étudiais en sciences économiques, là. Fait que, tu sais, j'étais pas du tout dans le domaine.
C'était pas ça pantoute, là.
J'ai vraiment eu la piqûre de cette clientèle-là. Je disais, je vais devenir orthopédagogue ou en tout cas, je vais faire un bac en éducation pour travailler, tu sais, que ça soit ça, mon travail dans la vie, de travailler avec les élèves aveugles et malvoyants. Donc, j'ai fait ce bac-là. Et
oui.
Là, évidemment, je me suis arrangée pour que mes deux derniers stages
soient là. OK.
À l'école Jacques Ouellette. Puis après ça, ben j'ai tout fait pour avoir un poste dans cette école. Puis j'étais chanceuse parce que ça a fonctionné.
Ça a fonctionné,
là.
Ouais.
Ben, je fais des contrats au début, là, tu sais, puis à un moment donné, j'ai eu un poste. Puis c'est ça.
Puis là, ça a été l'enseignement.
Oui, là, j'ai fait de l'enseignement.
Pendant?
Ouais. Ben, 2000 à 2013.
OK.
J'ai occupé, là, tu sais, comme j'ai fait plusieurs contrats, différents postes dans l'école.
Oui.
Et ensuite, je suis devenue, ben, on était prof itinérant à l'époque. On est devenu conseiller pédagogique.
Il y en a parlé, justement, Éric.
Éric qui était prof itinérant, là, avant moi.
C'est ça. Puis là, c'est là, quand il parlait, j'ai dit, ça ressemble un peu à conseiller pédagogique, finalement.
Ça ressemble, oui, ça ressemble.
Ça ressemble. C'est à l'externe.
Oui.
Mais on n'est pas vraiment avec les jeunes, là.
Ben, à l'époque, on l'était. Okay. Qu'on allait voir directement les élèves dans leur classe.
Okay.
Puis là, ben, ils le font encore, mais à des degrés divers, mm-hmm. là, un petit peu moins de façon intense. Mais,
oui.
Et c'est ça. Fait que là, j'ai fait cet emploi-là de prof itinérant qui est devenu conseiller pédagogique en déficience visuelle et ensuite personne ressource en déficience visuelle.
Okay.
Fait que j'ai terminé, avec le titre de personne ressource en déficience visuelle. Puis après, là, je suis allée en direction. J'ai voulu connaître d'autres choses, faire autre chose, mais là, j'ai fait 10 ans comme direction adjointe et direction d'école dans d'autres milieux complètement.
Puis, pas à Jacques Ouellet.
Pas du tout à Jacques Ouellet.
OK, là, c'est vraiment, c'est comme, je veux être directrice, on trouve quelle école.
C'est ça. On applique en direction. Puis là, finalement...
il y a du roulement au niveau de la direction, de toute façon. Là, on dirait naturellement, ils vont dire après tant d'années... OK, là, je pense que ça serait le fun que ça soit...
il y a plusieurs considérations. Il y a plusieurs choses qu'on prend en considération.
Mais c'est rare qu'une direction va être là pendant 20 ans. Là.
Non, c'est ça.
C'est ça que je veux dire. Là.
Oui, parce que le milieu peut servir à former aussi d'autres gestionnaires qui viennent d'une plus petite école, ils viennent dans cette... Bon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
Oui.
Parce qu'un centre de service, ça a beaucoup d'écoles très variées, primaire, secondaire, spécialisé, adulte, formation professionnelle, tout ça. Puis au début, on commence comme adjointe. Donc, j'ai fait 5 ans direction adjointe au centre d'éducation des adultes, le Moine-Diberville, 2 ans dans une école primaire de Brossard et 3 ans ensuite, là, direction d'école à l'école Félix Leclerc. Il y avait besoin d'une direction à Jacques Ouellet, là. Il y avait comme une direction qui quittait. Donc, il y avait besoin d'une direction. Ils m'ont appelé puis ils m'ont demandé si ça m'intéressait, là.
Depuis 2023. OK, c'est ça. Depuis 2023, c'est le chapeau là, de directrice de l'école.
Jacques Ouellet. Ouais, okay. Je suis revenue dans un milieu que je connaissais déjà, qui avait changé quand même, mais que je connaissais. Je connaissais la déficience
visuelle. Oui, c'est ça. On voit qu'il y avait vraiment un intérêt.
Ouais.
Sarah Lucier, psychoéducatrice.
Oui.
Est-ce que c'est un peu la même chose que on rentre on est en train d'étudier, puis on se dit, hey, moi, je vais être avec des jeunes qui ont un handicap visuel?
Non, j'ai pas du tout le même parcours que Geneviève.
OK.
En fait, j'ai étudié en psychoéducation. À la fin de l'université, il y avait plus, on parle des années, au début des années 2000, des postes en psychoéducation, il y en avait, mais pas tant non plus.
Ouais.
Fait que je suis rentrée au CSS Marie-Victorin comme éducatrice spécialisée.
Ouais.
Donc, les premières années, là, les 2-3 premières années, j'ai été vraiment éducatrice au régulier ou en classe spécialisée, mais dans des écoles régulières.
Ouais.
Je pense que ça a forgé là, mon approche beaucoup terrain là, dans mes interventions.
Oui, oui, oui.
Suite à ça, j'ai accédé à un poste comme psychoéducatrice. J'ai travaillé un peu au primaire, mais beaucoup au secondaire, entre autres à Saint-Hubert, dans une très grosse école secondaire.
Oui, OK.
J'avais une clientèle là, en adaptation scolaire là, qui était davantage, on appelle ça des classes phénix. Là. C'est des classes qui répondent aux besoins des élèves qui ont des enjeux au niveau de la santé mentale.
Oui, oui, oui.
Fait que j'ai été là pendant 10 ans.
Okay.
Quand même. Mais au travers de tout ça, au bout de 10 ans, à un moment donné, je me suis dit, je pense que j'ai besoin d'un autre défi. Mm-hmm. L'école Jacques Ouellet m'a toujours un peu fascinée, intéressée. Il y avait toujours un petit quelque chose qui me... J'avais une curiosité par rapport à l'école Jacques Ouellet.
Oui.
Et la psychoéducatrice qui était là avant moi, elle a fait sa carrière à Jacques Ouellet. Dans le fond, elle a fait 30 ans de carrière dans la même école.
Hey, wow.
Donc, quand elle a pris sa retraite, c'était un peu l'occasion rêvée d'appliquer parce que vu que c'est pas une grosse école, il y a pas 2-3 psychoéducatrices dans la même école, il y en a juste une. Donc, si le poste se libère...
Il y a juste une psychoéducatrice dans l'école à temps plein.
Oui.
C'est ça.
Donc,
parce qu'au régulier, souvent, la psychoéducatrice, ça fait même quelques heures dans plusieurs écoles. Mais là, la psychoéducatrice... Oui. Est attitré complètement à 100% de la tâche.
Exactement, okay. Exactement. Donc, et là, ben, quand la psychoéducatrice a pris sa retraite, c'était vraiment pour moi l'occasion rêvée. Oui. Je me suis dit, si les gens restent aussi longtemps à Jacques-Ouellette, je ne vois pas quand est-ce que je vais avoir la chance de réappliquer sur ce poste-là.
Oui.
Alors, donc, elle a pris sa retraite en 2022. Moi, je suis arrivée en 2022.
OK, donc c'est récent
fait
aussi.
Ça fait 4 ans.
Okay.
Mais j'avais besoin de vivre un nouveau défi.
Mm-hmm.
Donc, puis je trouvais que justement, la déficience visuelle, ça me sortait complètement de ma zone de confort professionnelle.
Ouais.
Personnelle, j'ai pas de déficience visuelle à moi, tu sais, à propre titre.
Ouais, ouais.
Mais j'ai quand même, les gens ne savent pas parce que je porte des verres de contact à temps plein, mais j'ai une très forte myopie.
Oui, mais c'est ça. Des fois, ça paraît pas, mais... Tu dis oui, j'ai quand même...
J'ai vraiment une très forte myopie et il y a des enjeux dans ma famille élargie là, de glaucome, de dégénérescence maculaire et tout ça. Puis j'ai toujours ça, moi, derrière la tête. Moi-même, dans ma vie ou dans mon processus, je ne sais pas, moi, comment ma situation visuelle va se développer vers...
En vieillissant. Non, c'est ça.
Puis... Pour moi, il y avait quand même une certaine anxiété ou quelque chose de stressant par rapport à ça. Puis
je comprends absolument.
D'arriver à Jacques-Ouellette puis de voir la résilience de ces enfants-là et de ces jeunes adultes-là qui, certains, ont vécu des épreuves vraiment tragiques, traumatiques, des cancers, des accidents, des maladies, peu importe. Et de les voir aussi résilients. J'ai rarement vu ça dans ma carrière. Ça a fait un baume dans mon cœur personnel.
Ça fait un baume, mais en même temps, on dirait que ça... Ça confronte aussi, hein?
Tout à fait. Ça me confronte, moi, dans moi-même, personnellement.
Exactement, c'est
avec
ça.
Avec ma situation à moi qui pourrait arriver. Bon, bref, peu importe. Mais de les voir, eux, et de voir comment ils accueillent la vie et comment ils se déploient, je trouve ça fabuleux. Fait que pour moi, c'est un cadeau professionnel,
Et personnel.
Et tout à fait, vraiment.
Je comprends amplement parce que moi-même, j'ai un handicap visuel, donc j'ai aussi cette espèce d'épée Damoclès, tu sais, qui est au-dessus de ma tête et que, pourquoi quand je rencontre des personnes en situation de handicap visuel, surtout des jeunes, des fois, là, ça me rentre dedans là, parce que là, je me dis, mon Dieu, tu sais, c'est tellement inspirant de voir, tu sais, comment ils passent au travers de ça. Puis qu'il y en a même, là, des fois, tu sais, ils vont vraiment dire, oh non, moi, j'ai pas peur de ça, moi, je pense pas à ça. Je me dis, oh mon Dieu, moi, j'ai vraiment l'impression que plus on vieillit, moins on est résistant et qu'on est prêt à. J'ai l'impression qu'on perd avec les années l'espèce de force naturelle qu'on a quand on est plus jeune, en tout cas pour le voir, là, tu sais, puis même quand je reçois des personnes justement qui vont connaître la déficience visuelle en vieillissant sur le tard, là, tu le vois que c'est beaucoup plus difficile parce que ta vie est comme faite, là, tu sais, tout est fait et là, tu dois tout adapter, tandis que là, c'est des jeunes qui partent avec ça. Et là, on parle à Jacques-Ouellette, c'est des jeunes de 4 à 21 ans. Hein?
Oui.
Donc, on a des jeunes plus vieux que dans les écoles au régulier, ou est-ce que au régulier, c'est jusqu'à 16 à peu près, là, en général, secondaire 5, 16-17, c'est ça. Mais là, c'est vraiment, y a-tu comme une année de plus, ou comment ça fonctionne, ou c'est que leur année, c'est pas défini comme... les années au régulier, tu sais, que le ministère de l'Éducation...
En fait, le ministère de l'Éducation prévoit que tous les élèves qui ont un handicap ou des difficultés comme telles que la vision, là, tous les élèves qui soient au régulier, en classe spécialisée ou à l'école spécialisée, ont jusqu'à 21 ans pour compléter leur parcours scolaire.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas juste Jacques-Ouellette, c'est pas juste dans les écoles spécialisées. Tous les élèves, même du régulier, qui ont un handicap, ont jusqu'à 21 ans. C'est-à-dire qu'on ne va pas garder un élève jusqu'à 21 ans au secteur jeune. T'sais, à un moment donné, s'il n'est pas diplômable, là, mettons, à 18 ans, on va dire, on va l'orienter plus aux adultes. On fait tout là, pour qu'ils réussissent avant ce temps-là. Mais quand ils ont un handicap, on reconnaît que c'est plus long, ça peut être plus ardu, il y a des obstacles qui sont... sur leur route. Là.
Mm-hmm.
Donc, on va reconnaître qu'ils ont jusqu'à 21 ans, mais pas juste à l'école spécialisée.
OK, OK.
Donc, mais nous, c'est d'emblée parce que... c'est d'emblée. C'est pas d'emblée qu'un élève va rester jusqu'à 21 ans, mais c'est d'emblée qu'il a le droit là, de venir à l'école Jacques-Ouellette jusqu'à 21 ans. Puis on fait partie du secteur jeune uniquement. Mm-hmm. C'est pas... Il n'y a pas une partie aux adultes, une partie aux jeunes. Oui. Donc, malgré le fait qu'ils peuvent être adultes, là, de 18 à 21 ans, c'est des vrais adultes, mais ils font partie du secteur jeune parce qu'ils ont un code de difficulté là, qui relève d'un handicap. Là.
Mais c'est ça qui est spécial parce qu'au régulier, c'est maternelle à sixième année. Après ça, on s'en va au secondaire. Les secondaires ne sont pas avec les maternelles. Mm-hmm. Déjà, avec les sixième années, on dirait qu'il y a
un monde.
Oui. Donc là, j'imagine Jacques-Ouellette de 4 ans, donc quand même encore plus jeune que nos maternelles, là, souvent. Ouais. Là, tu sais. Donc, 4 ans et 21 ans.
Oui.
Mais là, que tout le monde...
C'est une vraie société.
Se côtoie. Ben, c'est exactement ça.
C'est une vraie
petite
société. Contrairement aux autres écoles où c'est très
séparé,
cloisonné. Ouais. Puis, tu sais, un élève de premier cycle, des fois, le premier cycle et le deuxième cycle ne sont même pas en même temps, c'est en cours d'école parce c'est que non, ça ne se fait pas.
Ouais.
Non, nous, c'est vraiment pas ça. C'est une école spécialisée, mais c'est sûr qu'il y a des écoles spécialisées où les élèves vont avoir des grands, grands retards au niveau, mettons, intellectuel, ce qui n'est pas le cas nécessairement là, à Jacques-Ouellette.
Mm-hmm.
Donc, c'est vrai qu'il y a des petits qui côtoient des plus grands. Puis, tu sais, il y a tout un échange. C'est vraiment particulier, mais je pense que c'est bénéfique. Puis, c'est encore mieux que le premier cycle puis le deuxième cycle, je joue pas ensemble, c'est à la cour d'école.
Bien, moi, je trouve ça ridicule. Ben oui. Tu sais, du moment que 4-5e année, 6e, tu sais, sont comme à une place, les maternelles peuvent jouer juste dans ce carré-là. Tu sais, c'est comme, tu as un module, tu joues dans ton module, puis là, OK, tu sais, c'est ça. Ils se séparent, tandis que
non, c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus inclusif.
Mais je trouve ça, j'imagine, là, on dirait que je vois des jeunes tout petits, avec des grands, tu sais, qui se côtoient tout le monde ensemble, je trouve ça vraiment beau.
Il y avait une situation l'année dernière, où je sais pas si c'est au printemps dernier, je pense que c'est au printemps dernier, on joue au soccer, évidemment, comme dans toutes les écoles, nos élèves aiment beaucoup jouer au soccer.
Ouais.
Quand c'était juste le primaire qui était dehors, les techniciennes en éducation spécialisée, là, les TES, ils disaient « Ah, il y a beaucoup de chicanes, tu sais, ça se chicane, ça se craque le chignon, là, parce que c'est bon. » Mais dès que le secondaire, puis même le CFR, qui sont encore plus vieux, le CFR…
Le CFR, c'est justement, c'est là quand on te prépare…
Oui, c'est ça. Ben, c'est pour une certaine clientèle là, qui répond aux...
Chloé, c'est ça.
Donc là, quand ils sont arrivés puis qu'ils ont commencé à jouer au soccer avec les... Ah là, il n'y en avait plus de chicanes, là. Ça s'est comme tout régulé.
Naturellement.
Oui, plus naturellement. Les plus petits voulaient comme bien paraître devant les plus vieux. Les plus vieux faisaient attention aux plus petits.
Wow.
C'est ça. Fait qu'il y a des avantages à ça, là.
Absolument. Et Sarah, moi, c'est sûr que ce côté-là, psychoéducation, donc là, on parle vraiment de la santé mentale, mais on le sait que quand c'est au niveau des écoles, dans le fond, ce qui est important, c'est que le jeune complète, tu sais, au niveau académique et tout ça, puis qu'il ait son diplôme. Et là, le côté éducation spécialisée embarque pour soutenir ça. Pour
les capacités adaptatives des élèves.
Oui, on n'est pas en train de faire de la thérapie et tout ça. Là, donc, c'est vraiment soutenir. Mais justement, comme psychoéducatrice, est-ce que ça se passe pareil? Les jeunes, justement, ils vont se battre sa... Mais tu sais, comme ce que j'ai vu tellement, tu sais, les jeunes vont se battre sa cour d'école, ils vont avoir des chichis de filles. Tu sais, tout ça, là.
Oui.
Ça fais-tu partie?
Bien, je vais dire, une école, c'est une école. Hein? Que ce soit une école spécialisée ou une école régulière, des chicanes, des difficultés au niveau des habiletés sociales.
C'est ça!
Ça fait partie du quotidien.
Mm-hmm.
Je pense que, bon, on est une plus petite école, fait que c'est à moins grande échelle.
Oui.
Mais il y a de l'apprentissage à faire auprès de nos élèves parce que, justement, ils apprennent pas. Étant donné qu'ils ne voient pas, il y a plein de choses, plein d'apprentissages qu'ils ont beaucoup de difficultés à faire.
Oui.
Ne serait-ce que dans les relations sociales, comment qu'on s'adresse à quelqu'un, comment qu'on joue et tout ça. Fait que nous, on est beaucoup dans de l'enseignement explicite à l'école, plus, parce que ne serait-ce que la posture, comment qu'on salue quelqu'un et tout ça. Mais ça reste que des chicanes de petites filles, c'est des chicanes de petites filles, des chicanes de « il a volé mon ballon ».
Oui,
ça a lieu d'être.
Ça a lieu d'être.
Ah, oui.
C'est ça. Et est-ce qu'il y a des jeunes, justement, parce que, tu sais, au niveau de finalement tes tâches, tu sais, que là, tu vas régler autant une gestion de conflit de ballon comme...
Ça va être plus le rôle des éducatrices spécialisées et des gens qui sont, sur, mettons, en surveillance, sur la cour et tout ça. Oui, effectivement. Moi, mon rôle, il est davantage... moi, je suis en soutien clinique.
Oui, c'est ça. Entre autres, oui.
Fait que moi, j'ai plus un rôle un peu de coordonnatrice avec les partenaires externes. Parce que, bon, tu sais, l'école Jacques-Ouellette, on travaille beaucoup avec les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux.
Oui.
Entre autres, INLB, pour ne pas les nommer.
Exact.
Mais fait que souvent, ben, la courroie de transmission, quand on a besoin de passer de l'information, ça va souvent passer par moi.
Mm-hmm. Il peut avoir aussi la DPJ, probablement.
Oui, surtout. Oui,
c'est
Oui, les centres de réadaptation aussi au niveau moteur, physique, les partenaires comme un peu la Fondation des Aveugles du Québec, les partenaires justement communautaires, tout à fait. J'ai vraiment un rôle plus clinique dans...
comme d'évaluation, des rapports?
Pas tant, parce qu'il arrive souvent à l'externe déjà avec des évaluations et tout ça.
Fait que
le rôle à l'école n'est pas tant ça. C'est plus, mettons, dans la classe, bien là, nous, on va faire des rencontres cliniques, c'est-à-dire des rencontres avec l'enseignant, avec l'éducateur spécialisé ou l'éducatrice spécialisée. Mm-hmm. Puis là, on regarde ensemble c'est quoi le plan de match qu'on fait pour faire évoluer cet enfant-là. Quels sont ses défis? Quels sont ses besoins actuels? Jusqu'où qu'on pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on est capable de l'amener.
Mm-hmm.
Évidemment, ça passe par un plan d'intervention aussi.
Exact, ce que j'allais dire, c'est un plan d'intervention. Là,
mais oui, tout à fait.
Avec des objectifs clairs.
Exactement. Puis là, nous, on se rencontre régulièrement justement pour voir l'évolution puis voir comment on se réajuste pour amener nos élèves plus loin.
Mm-hmm.
Je fais aussi de l'animation en classe.
Oui.
Ça, de l'animation de groupe, j'adore ça, faire ça.
Mais oui.
Donc, avec des programmes de toutes sortes là, au niveau...
Là, c'est de la prévention à ce moment-là.
Tout à fait. Puis vraiment, le développement des habiletés sociales parce que... Puis une partie d'autodétermination.
Oui.
Les élèves sont souvent habitués à Jacques-Ouellette de par, évidemment, leurs difficultés, mais de par aussi le fait que les gens veulent bien faire, font souvent à la place d'eux.
À la place, oui.
Dans leur vie, là.
Oui.
C'est présent partout, là.
Ah oui, c'est ça. Je veux dire, je le vis, là. Je marche dehors avec une canne blanche. Des fois, je me fais agripper littéralement par le bras et je me suis pas fait demander et je suis en train de traverser la rue.
Puis évidemment, les gens veulent pas mal faire.
Non.
Les gens veulent assurément bien faire puis être bienveillants, mais il y a quand même un apprentissage à faire auprès de nos élèves pour que eux-mêmes soient...
Oui, puis il y a un besoin d'autonomie, là.
Tout à fait.
Ben oui, oui, oui.
Ben oui, de développer là, les AVQ qu'on appelle, tout le volet de « je suis capable de prendre un choix pour moi-même, prendre des décisions, de prendre pleinement possession de mes goûts puis de ce que j'ai goût de faire dans la vie.
Ouais. »
Mais ça, c'est un apprentissage à faire auprès des élèves parce que, justement, certains sont dans une position plus passive puis ils attendent qu'on fasse à leur place. Ça reste un défi.
Oui, ça, c'est sûr.
Ça reste un défi. Puis un des enjeux aussi que je vois dans les dernières années, c'est aussi beaucoup, au niveau des habiletés sociales, les cercles sociaux.
Oui.
Ils ont souvent tendance...
la bulle.
Oui, la bulle, mais aussi faire confiance à n'importe qui.
Ben oui, OK.
Puis tout le monde devient un ami.
Oui,
tout
c'est ça.
Mais non, il y a comme un rôle. Tu sais, chaque personne qui est une connaissance, qui fait partie de la communauté, c'est qui sont tes amis rapprochés. Tu n'as pas 92 amis, ce n'est pas vrai.
Mais non.
À qui tu te confies? À qui tu parles de telle affaire? Tu sais, tout ça, c'est vraiment de l'apprentissage explicite que les élèves ont besoin de se faire enseigner.
Absolument.
Fait que ça, je fais beaucoup ça avec les élèves dans mes animations.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de partenariats justement avec les parents? Parce que, comme on le sait, si, exemple, mon enfant a un handicap visuel, ça se peut que je sois surprotecteur et que je fasse pour mon enfant parce que coupe pas le céleri, c'est moi qui vais le faire. Oui. Comme ça, tu te blesses pas.
Oui.
Oui, ça,
oui, exactement. Oui, c'est ça. Fait on travaille autant avec le parent qu'avec le jeune.
Qu'avec le jeune, c'est ça. Ça, c'est le côté de la psychoéducation.
Oui.
En éducation spécialisée, c'est vraiment plus avec le jeune et moins avec, avec les parents.
Puis des fois, ce qui est le fun, c'est qu'on fait un apprentissage avec le jeune, puis après ça, on le montre aux parents. Regardez ce que votre enfant est capable de faire. Puis là, puis là, on sent que ça chemine à la maison.
C'est ça. Et je voulais voir, parce que justement, là... Tu sais, quand on parle des défis là, avec ces jeunes-là, est-ce qu'on pourrait dire que, vu que c'est une plus petite école, tu sais, qu'il y a quelque chose qu'on arrive à faire justement plus de prévention, qu'on arrive à mettre, tu sais, parce que dans les écoles régulières, on dirait que, tu commences l'année, t'es bien motivé, mais après ça, c'est fini, là, tu sais, t'as plus le temps de rien faire, sauf d'intervenir quand ça se passe.
Mm-hmm.
Est-ce que, vu que c'est une plus petite école... Il y a comme moyen de garder ce côté-là préventif.
C'est vrai, c'est une plus petite école. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants aussi.
Mais il y a combien d'intervenants? En fait, il y a combien d'élèves?
Oui, c'est ça. Il y a 55 élèves en ce moment dans l'école.
Mon Dieu! Mais OK!
OK, parce que nos groupes sont 5 à 7 élèves par groupe. Des fois, ben, on en a quatre, là, puis parce que, bon, on a réussi à faire un groupe à quatre.
Ouais.
Donc, c'est sûr que petit, le soutien qui est dans la classe est beaucoup plus grand que dans un groupe de 20 avec une TES qui est là pour 6 classes.
Ouais, c'est ça.
C'est sûr. Fait que oui, on a, ben, c'est qu'on a aussi des employés à l'école qui travaillent, disons, à, mettons, on a des employés qui font du matériel, OK, donc du matériel adapté. Nous, on appelle ça le SPA, là. C'est le service de production adapté.
Oui.
Donc, on a comme, bon, plusieurs employés qui sont là. On a des employés à la bibliothèque, on a des, bon. Fait qu'en tout, là, il y a 60...
professionnels?
Ben, 60 employés.
60 employés.
Il y a des techniciens là-dedans, il y a des employés de bureau. Ben, tu sais, on a une secrétaire, une direction, deux concierges, mais après ça, ce sont tous des techniciens ou des intervenants en soutien direct aux élèves ou des techniciens qui font du matériel adapté.
Là-dedans, donc, les enseignants ne sont pas comptés dans les 60.
Oui,
c'est ça. Les enseignants sont comptés, mais aussi au niveau de la psychoéducation.
Oui, je compte les professionnels. Sarah,
mais il y a des éducateurs.
Une conseillère en orientation.
Oui.
On a une psychologue.
Psychologue.
Mais psychologue, là, c'est très peu d'heures par semaine quand même. Là.
Hey.
Très, très peu.
Oui, oui.
Puis une orthophoniste, 3 jours semaine.
Orthopédagogue.
Bien, on est tous des orthopédagogues. Ah. Là, les profs, on est tous orthopédagogues. Okay. Mais on a aussi un prof d'informatique, un prof de braille, un prof...
Spécifique, OK.
Oui, c'est ça. Puis une enseignante aussi qui va soutenir dans les classes, soit directement les élèves, non, elle est vraiment enseignante.
Non, OK.
Puis elle intervient aussi auprès des élèves du centre de service scolaire Marie-Victorin qui sont intégrés dans leur école de quartier et qui ont de grands besoins.
Ouais.
Par exemple, si on a deux élèves non-voyantes, bien c'est sûr qu'elle va intervenir auprès de ces élèves-là et de leur équipe proche, là, de leur garde rapprochée. Oui. Donc, on a aussi ça fait 3 postes de plus d'enseignants. Déjà que chaque classe de 4, 5, 6 là, ont un prof, ça fait quand même beaucoup de profs. Puis il y a aussi les PEH.
On a quand même
plusieurs PEH, plusieurs TES.
Incroyable.
7 TES.
Ouais.
C'est ça.
C'est quelque chose. Là. Il y a
beaucoup, beaucoup de
soutien. Énormément de soutien.
Ça, c'est dans les écoles. T'sais, l'école Jacques Ouellet, c'est une école spécialisée. C'est une école, on appelle ça un service de scolarisation, un service suprarégional de scolarisation.
Ouais.
Nous, on est spécialisés en déficience visuelle, mais il y a d'autres services régionaux de scolarisation qui vont être spécialisés dans d'autres types de clientèle.
Mm-hmm.
Ça, c'est financé, tu sais, comme directement par le ministère.
Hey, c'est tellement intéressant, mesdames, mais c'est déjà terminé. Mais là, je suis vraiment contente parce qu'on a fait un beau portrait de Jacques Ouellet, toute cette émission. Donc, vraiment, merci à tous mes invités de votre grande générosité. Et moi, ben, j'invite les gens à aller sur le site Internet de Canal M pour écouter les émissions. Ils sont en rediffusion. Et vous pouvez nous retrouver maintenant aussi là, sur toutes les plateformes où est-ce qu'on retrouve les balados et tout ça. Donc, vous écrivez Mission Vision sur Spotify et vous avez mon émission qui est là, justement. Donc, nous, on se retrouve pour une autre belle émission la semaine prochaine. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Bonne journée.
Merci.